au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Bien, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment une explication pourquoi je vous dis quatre fois bonjour, parce que ce que je m'apprête à vous annoncer, ça donne pas envie de trouver une blague sur ça. Fulgence Blas, une voix de Canal M, s'est éteinte. C'est avec une profonde tristesse que l'équipe de Canal M et de Vues et Voix a appris le décès de Fulgence Blas, survenu le 6 août 2026. Fulgence faisait partie de la famille de Canal M depuis de nombreuses années. Il avait fait ses débuts chez nous en 2011 comme chroniqueur pendant quelques mois avant de revenir comme animateur. Au fil des ans, il a marqué notre antenne à travers plusieurs émissions, Kaléidoscope, Regards croisés, Escale 16-17 et depuis 2023, Afrique-Caraïbes. Sa voix grave et posée est devenue familière pour nos auditrices et auditeurs, mais aussi pour toute l'équipe. Et derrière le micro, Fulgence était un homme curieux qui aimait aller à la rencontre des autres et découvrir leur parcours en leur donnant le temps de se raconter. Cette curiosité s'exprimait particulièrement dans Afrique-Caraïbes. Semaine après semaine, il y faisait entendre des artistes, auteurs, musiciens, acteurs, des communautés noires d'ici et d'ailleurs, créant des ponts entre Montréal, le Québec, les Caraïbes et le continent africain. Homme de radio depuis plus de 15 ans, il avait également travaillé à Radio Centre-Ville, CKIN, Radio-Canada et CIBL. La voix occupait une place importante dans sa vie professionnelle. Fulgence était aussi narrateur, lecteur public, comédien et doubleur. J'ai même partagé la scène avec lui lors de soirées de poésie, je peux vous le dire. Pour nous toutefois, il restera cette voix entendue si souvent dans nos studios, celle d'un collègue qui a contribué année après année à faire de Canal M une radio de rencontres, de découvertes et de diversité. Au fil des années, Fulgence a laissé une trace durable à Canal M, autant par ses émissions que par sa contribution à notre antenne. À sa famille, à ses proches, à ses amis, à toutes les personnes qui ont eu la chance, je dirais même le privilège de le côtoyer, nous offrons nos plus sincères condoléances. Mon Dieu, que c'est pas facile à lire ça. Merci Fulgence pour toutes ces années avec nous. Ta voix va nous manquer. Et pour reprendre les mots avec lesquels tu terminais si souvent tes émissions, prenez soin de vos minutes. Bon, c'est vraiment pas la chose la plus agréable à faire, mais en même temps, je me considère privilégié de pouvoir lui rendre cet hommage en ondes ici à Canal M, parce que c'est la seule émission qui est présentée présentement en direct à Canal M. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça très difficile hier d'apprendre cette nouvelle, parce qu'on ne savait pas que Fulgence avait été malade, et puis bon, ben il en est mort. Et on ne s'attendait, on ne savait pas, on a tous été surpris et peinés. Puis je pense que vous, les auditeurs, les auditrices aussi, je pense que vous allez aussi avoir peut-être de bons souvenirs à partager sur Fulgence. Et puis, ben c'est ça, on va continuer à l'honorer. C'était une personne extraordinaire. Ben, je vais tout de suite maintenant dire bonjour à Maurice Bolduc. Comment oui. Tu vas, Maurice, aujourd'hui?
Bien, bien, bien.
Ouais,
pas c'est frais le matin.
Oui, mais ça. Avec le décès de...
Ben, toujours ébranlé aussi, là, mais...
On est tous ébranlés.
Oui,
hein?
Oui.
Ouais, parce que
c'est une triste, triste nouvelle.
C'est une très triste nouvelle. Et toi, Serge, aussi, t'as côtoyé Fulgence?
Un peu dans les occasions ici, quand on faisait des réunions aux fêtes. Là,
avec où, sa grosse voix et son
ouais,
rire.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, écoute, il avait une voix grave. Je me disais, à un moment donné, il va faire péter des vitres si ça continue comme ça. Oui, oui, je vais le taquiner avec ça. Ben écoute, on va essayer de se changer les idées parce que je crois pas que d'être triste et d'avoir de la peine comme on en a présentement, c'est ce que voudrait Fulgence, qui était un homme qui aimait la vie. Alors toi, tu aimes la vie, mon beau Serge.
Oui, oui, oui.
Tu as des choses à nous présenter aujourd'hui.
Oui, ma première chronique va porter sur Elvis Presley, des infos insolites sur le roi du rock.
Ah ouais? Ouais.
Entre autres, il avait 14 téléviseurs chez lui, c'est un fan de la télé.
Ah bon?
Il rêvait de devenir espion du FBI. Il était blond, il n'était pas noir. Il n'était pas cheveux noirs, il était cheveux blonds, etc., etc., etc.
C'était les cheveux. C'est comme moi, je n'ai pas les cheveux gris, j'ai les cheveux...
Quand vous allez voir avec quoi il se... Qu'est-ce qu'il se mettait dans les cheveux pour...
je pense que j'ai entendu. C'est pas de pour les chaussures.
Oui, il a commencé avec ça, oui. Il a changé après.
Ah oui, j'avais entendu ça. Quelle histoire. Ouais. Mais Serge, ça va être très intéressant.
Et le deuxième sujet, en deuxième partie, ce sera les Perséides.
Ben oui, c'est le temps de l'année, là.
Oui, parce que là, ce soir, imaginez-vous, c'est le 12, la nuit du 12 au 13, c'est la meilleure nuit pour voir les Perséides. perséides.
Mais le problème à Montréal, il y a trop de pollution lumineuse. Là,
ouais. Oui, mais dans le TV Hebdo,
ouais.
Il faut toujours lire le TV Hebdo. Et on nous donne des endroits où aller voir les perséides.
Ici à Montréal?
Non, ben Montréal, mais aussi en banlieue, ouais. Près de Montréal.
Mais moi, je pourrais penser peut-être que si on va dans des parcs, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Mm-hmm. Mais... Bon, c'est d'avoir, puis surtout, mais le problème, c'est que les parcs, il faut sortir de là à 11h le soir.
Il
y a loi.
Puis il faut éviter les lampadaires aussi, tout ce qui est lumière. Alors, il faut avoir un ciel que ce soit noir là, pour
boire. On va avoir une panne d'électricité. Tant qu'à faire des orages aussi hein, qu'on prévoit aujourd'hui. Mais c'est intéressant tout ça. Moi, je vais parler avec Philippe Lambert. C'est le directeur artistique du Théâtre de la Licorne et de la Manufacture, parce qu'on va parler de la nouvelle saison de ce théâtre ici à Montréal. Et on va aussi avoir Julien Caillouette, rédacteur en chef de Franco-Presse, qui, lui, va nous parler donc des nouvelles du Canada français. À la météo, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal partout là, dans l'est du pays. C'est ensoleillé ce matin, alternant soleil et de nuages, 40% de probabilité d'averse en après-midi, risque aussi d'un orage en après-midi. Les maximums autour de 24, mais on a quand même des humidex assez élevés, hein, 31. Nouvelle-Écosse, par contre, il n'y a pas de précipitation prévue, mais là aussi, les humidex sont élevés, 29. Dans l'ouest, c'est soleil et passage nuageux au Manitoba, 29 d'humidex. Saskatchewan, pas d'humidex, 21 degrés, possibilité d'averse et d'orage en Alberta, 18. C'est drôle hein, comment la météo change d'un boileau du pays. Puis alternant soleil de nuages en Colombie-Britannique, 22 degrés, possibilité d'averses et d'orages sur la côte ouest. Et là maintenant, ben, on s'en va à musique.
Vous qui cherchez l'étoile. Laissez-moi vous suivre.
Vous qui venez vers d'autres vies, laissez-moi vivre le bleu de la vie.
La joie d'être libre sur des rayons, sur des soleils.
Star Academy ne partait pas sans moi.
Bon, j'ai un petit peu dépassé le temps d'ouverture de l'émission, ça fait que je n'aurai qu'une seule manchette, puis on verra dans le cours de l'émission si je peux en ajouter d'autres. Mais dans la Presse Plus ce matin, on est à 2 semaines du déclenchement prévu de la campagne électorale québécoise. Mais là, les sondages sur les intentions de vote, ça se multiplie. Ça fait juste commencer. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Alors, un nouveau sondage, Synopsis, la presse, indique que le Parti québécois demeure en tête des intentions de vote avec 30 % des appuis. Le Parti libéral suit avec 26 %. Et la coalition Avenir Québec se situe à 20 %. Le Parti conservateur du Québec grimpe à 15 et Québec solidaire récolte 9 %. Ça ressemble à l'autre sondage qu'on a présenté hier et ça n'a pas beaucoup bougé là, depuis quelques mois. Puis il y a beaucoup de gens qui demeurent indécis, alors c'est à suivre. L'insatisfaction envers le gouvernement de Christine Fréchette, lui, atteint 49 % alors que 36 % des répondants se disent satisfaits. En ce qui concerne la course à la direction de la province, 25 % des répondants voient en Paul Saint-Pierre Plamondon le meilleur premier ministre, contre 21 % pour Christine Fréchette et 14 % pour Charles Ménard. Sur la question d'un éventuel référendum, le oui récolterait 31 % seulement des voix. Les principales préoccupations de la population demeurent le système de santé à 56 %, l'inflation et le coût de la vie à 43 % ainsi que le logement à 35 %. Sur la scène fédérale, le Parti libéral de Mark Carney mène dans les intentions de vote avec 43 %, suivi par le Bloc québécois à 27 % et le Parti conservateur à 18 %. Le Parti nouveau Parti démocratique est à 7 %. Mon Dieu, ils avaient presque tout raflé les sièges en 2011. Hein? Dans le cadre de ce sondage, donc, il n'y a pas de marge d'erreur. C'est un sondage plutôt probabiliste, qu'on dit, oui. 1040 Québécois ont été interviewés du 6 au 10 août. Les répondants ont donc été recrutés par des panels en ligne. L'étude a été menée en ligne. Les données ont été pondérées sur la base de l'âge, du sexe, de la langue maternelle et de la région pour représenter la population adulte du Québec. Il n'y a aucun facteur, donc, de pondération qui n'excède pas une valeur de 3.
Elvis, tout ce que t'étais pour moi, avec ton corps danseuse et ta guitare chromée, j'avais des échecs d'un corps quand j'entendais un avec ma crinoline et mes cheveux blancs platines, je me prenais pour Marlène quand j'allais au drive-in. Tous les samedis soirs avec mon chum Charlie qui faisait peur à voir mais qui se prenait pour toi. Charter, j'ai été à Las Vegas.
Chanson pour Elvis par Diane Dufresne.
Ah,
c'est beau.
C'est une belle chanson.
Oui.
Tu m'avais demandé de faire jouer une chanson d'Elvis. Uh-huh. C'est juste que j'ai un petit peu de problème à faire jouer des chansons en anglais en notre antenne.
Très bien sûr.
Puis là, je me suis dit, ah, Diane Dufresne qui chante Elvis. Puis je trouve tellement qu'elle raconte le personnage et on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. On en fait-tu des mâles comme toi, Serge? Ah, mais c'est vraiment moi, cette phrase-là, cette parole-là dans cette chanson, je trouve qu'elle est encore plus d'actualité cette année, ces jours-ci, avec les mâles alpha, la masculinité toxique. Ah, j'adore. Mais Diane Dufresne, hein, c'est une visionnaire, hein, elle est encore. Alors, allons-y, on va parler d'Elvis.
Absolument. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans la revue Ça m'intéresse Histoire de l'automne dernier, automne 2025, un article de Ludivine Loncle.
Ludivine Loncle.
Oui, L-O-N-C-L-E. Alors, ce sont des fins solides, il y en a une douzaine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les lire, mais en tout cas. Elvis avait un frère jumeau, saviez-vous?
Il me semble que j'avais déjà entendu parler de ça, mais ça fait trop longtemps.
Oui, c'est ça. Ben, Elvis disait, parfois je suis très seul, je suis seul en plein milieu de la foule. Malgré les millions de fans, cette solitude qu'elle voit qu'Elvis Presley aurait été sa plus fidèle compagne. À peine est-il né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi qu'il en fait l'expérience. Mmh. 35 minutes avant lui, sa mère a accouché d'un bébé mort-né.
Ah non!
Jesse Garon, oui. Et le petit Elvis va grandir dans l'absence de ce jumeau qu'il n'a jamais connu, mais qui lui manque viscéralement. Est-ce qu'on sait que les jumeaux, hein, c'est très, très,
oui, il paraît,
c'est très fort?
Hein?
Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Heureusement pour l'entourer, il y a son père, Vernon, et Gladys, cette mère adorée qui ferait tout pour lui. Qu'importe si les Presley sont des ouvriers sans le sou, pour les 11 ans de leur fils unique, il aura une jolie guitare.
Ah!
Oui. Lui qui espérait un vélo se met vite à la musique pour plaire à maman. Et quand, en 1953, il enregistre son premier disque, My Happiness, c'est pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à celle qui a toujours été sa meilleure amie. Mmh. Mais, le 14 août 1958, Gladys meurt soudain d'une hépatite virale à 46 ans. Son fils anéanti ne s'en remettra jamais.
Oh.
Sa première télé lui vaut 600 000 lettres de protestation.
Ben voyons.
Oui, écoutez bien ça. Le 9 septembre 1956, les téléspectateurs du Ed Sullivan Show, l'émission phare de la chaîne américaine CBS,
tout à fait, oui,
en reste bouche bée. Ce rythme endiablé, ce son nouveau, cette gestuelle provocatrice surtout, Elvis, à 21 ans, crève l'écran avec « Don't be cruel », son tube du moment.
Ah oui, le déhanchement d'Elvis Presley. Ouais.
Une révolution musicale qui, depuis ses débuts en fanfare il y a 2 ans avec « That's all right, mama », secoue des États-Unis ségrégationnistes avec son « rockability », mélange exclusif de blues et de country. Alors forcément, les critiques fusent. Les Blancs du Sud lui reprochent de chanter comme un noir.
Ah oui?
Alors que les Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans l'accusent de voler leur jazz.
Ah, la réappropriation culturelle. Ouais. L'appropriation culturelle, ouais. Oui.
La grogne est telle que son premier passage télévisé quelques mois plus tôt avait lu au King 600 000 lettres de protestation, rien de moins. La scène angoisse ce grand showman. À un tel point que lors d'un de ses premiers concerts en juillet 1954 à Memphis, ses jambes se mettent à trembler.
Oh! Mais voyons, toi.
Oui. Sauf que les groupies en redemandent car ses déhanchés, bien qu'involontaires, sont sensuels.
Alors donc, quand il se déhanchait comme ça, c'était aussi causé par un souci de santé.
Oui.
Ah ben là, on en apprend une bonne.
Alors évidemment, les jeunes filles hurlent en transe et leurs parents, de colère, le traitent d'obsédé sexuel, d'exhibitionniste. Ce King est le diable en personne, rien de moins.
Ailleurs.
On le surnomme même Elvis de Pelvis.
Ah ben oui, remarque que ça fonctionne, oui. C'est drôle.
Référence à ses mouvements de bassin suggestifs, et les caméras de télé ne le cadrent plus qu'au-dessus de la ceinture.
Eh mon Dieu, que les choses ont changé depuis ce temps-là. Ouais. Hein?
L'enfant terrible du showbiz dans la cure et fera de ses pas sulfureux sa marque de fabrique. Je n'essaie pas d'être sexy, c'est juste ma façon de m'exprimer quand je me déplace. Et en réalité, il était blond. Eh oui. Si Elvis avait affiché sa blondeur, la face du rock en aurait-elle été changée?
Est-ce qu'il aurait été aussi adulé cheveux blonds?
Car en vérité, le rocker à la banane noire avait les cheveux clairs, un joli blond cendré qu'il cache dès 1956 sous des teintures douteuses comme du cirage à chaussures.
Oh. Ça, j'avais entendu ça.
Avant de passer en 1972 à une coloration digne de ce nom. Juste avec du cirage de chaussures, j'espère que ça y prenait combien de shampoings pour s'enlever ça avant d'aller se coucher.
Ça devait tâcher les oreillers. Ah, mais je fais juste penser que si par hasard, il se gratte le fond de la tête et les doigts tout noirs. Là.
Ouais. Le but de ça, c'était de coller à fond au look de Bad Boy, incarnation de l'esprit rebelle du rock'n'roll. Cette crinière gominée et noire de jais, c'est en effet autrement plus badass qu'une blondeur de bébé. Et parce qu'Elvis est l'idole des jeunes, tous les ados s'empressent de le copier. Il a même fait, Elvis, la promo de la vaccination.
Mmh.
Oui. Le 28 octobre 1956, Elvis, manche retroussée, se fait injecter devant des millions de téléspectateurs le vaccin contre la poliomyélite, qui était un fléau à l'époque.
Tout à fait.
Maladie grave et contagieuse qui sévissait alors. Et comme ce sérum n'est pas populaire chez les jeunes, les autorités de santé ont fait appel à la superstar du moment. Et bingo! L'opération de promotion réussit.
Ah oui?
6 mois après son passage télé, 80% des adolescents ont sauté le pas. Quand il n'était que 1% auparavant.
Wow! Mais les vaccino-sceptiques, là, c'est pas nouveau ça non plus.
Non.
Rappelez-vous, ici, même à Montréal, la variole, les gens avaient même mis le feu à un hôpital où on donnait la vaccination. Mmh. Ouais.
Et cette vaccination a permis d'éliminer en 1979, la poliomyélite.
Mmh.
C'est quand même à souligner. Il rencontre sa future femme quand elle n'a que 14 ans. Mais rassurez-vous, c'est resté quand même correct, là. Priscilla Beaulieu, quoi rêver, elle, la fan anonyme, va rencontrer le King en personne. Nous sommes en septembre 59 et la jeune américaine vit avec ses parents en Allemagne de l'Ouest, là où Elvis effectue son service militaire.
Mm.
Et c'est un ami de la rockstar qui a fait l'intermédiaire entre Presley et l'adolescente, car Priscilla n'a que 14 ans, tandis qu'Elvis en a 24.
Ouais.
Cette différence d'âge n'arrête pas le chanteur qui s'imagine déjà épouser la demoiselle. Leur relation reste platonique. Sa promise doit rester vierge jusqu'au mariage, ce qui se fait le 1er mai 1967 à Las Vegas, et les noces seront vite consommées.
Et elle avait quel âge, Priscilla, à ce moment-là? Probablement 18 ans, n'est-ce pas?
De 59 à 67, elle était rendue
à 18.
Ouais, elle est adulte.
Ouais.
Et neuf mois plus tard, exactement, Lise Marie naît. Le 1er février 68.
Ils n'ont pas chômé.
Non.
Ouais.
Et Elvis est un papa gâteau avec sa fille unique, mais aussi un mari jaloux qui façonne sa femme à sa convenance, la trompe et ne veut plus d'elle depuis qu'elle est mère.
Ah, mon Dieu.
Au bout, Priscilla obtient le divorce en 73. Elle aurait été la seule Madame Presley. Les autres ont été des compagnes.
Ah, les paroles de Diane Dufresne, on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. Moi, je pense qu'on en fait encore pas mal, finalement.
Alors, c'était également un adepte du karaté.
Oui.
Il adore les ceintures, puis surtout les ceintures noires. Et en 58, alors qu'il fait son service militaire, Elvis se prend de passion pour le karaté. Et en à peine 2 ans de pratique, il obtient sa ceinture noire auprès du champion du Japon, Henri Slomanski. Et il va même jusqu'au 7e dan.
Quand même.
Ouais. Carrière d'acteur, pas une réussite.
Ah non, pas du tout.
Non.
On a tous vu les films d'Elvis. Bon, ouais.
Si les tubes d'Elvis sont restés dans l'histoire, ses talents de comédien, beaucoup moins.
Mm-hmm.
Le chanteur a pourtant tourné dans de nombreux films, pour la plupart tombés dans les oubliettes du 7e art. À son compteur, quand même, 31 westerns et comédies. Il en a fait beaucoup, hein? Avec qu'il enchaîne de 56 à 68 avec la même rengaine et un personnage taillé sur mesure, un gars sans le sou qui s'en sort grâce à la musique.
Ah ouais.
Souvent médiocres, ces films font pourtant le plein et leur bande originale compte parmi les standards de Presley comme Jailhouse Rock et Love Me Tender. Sauf que l'acteur le mieux payé de son époque vise un rôle dramatique à la Marlon Brando. Il visait.
Ouais, visait haut.
Oui, c'est ma grande ambition, confie-t-il en 1960 à la télévision. Son rêve ne deviendra toutefois pas réalité et après une décennie de cinéma, Elvis Lassé mettra un terme à sa carrière hollywoodienne. Star planétaire, mais pourtant, il n'a chanté qu'en Amérique.
Arrête.
Ouais.
Hey, c'est incroyable comment est-ce qu'on ne se souvient pas de tout ça.
Non. Ouais. Nous sommes le 14 janvier 1973 et ce jour-là, le monde s'arrête de tourner. Devant leur télé, plus d'un milliard de personnes assistent en direct à Aloha from Hawaii, le concert du King à Honolulu. C'est plus que le nombre de téléspectateurs qui ont vu le premier pas d'un homme sur la Lune.
Ouais.
Grâce au premier show de l'histoire retransmis par satellite, les fans du monde entier peuvent enfin voir leur idole sur scène et pour cause, Elvis, cette star internationale, n'a chanté que 3 fois hors des États-Unis et c'était au Canada.
Bon.
De chez nous. Chanceux.
Ce que certains voient comme le 51e État.
Oui. Et il voulait devenir agent secret. Il avait même eu une rencontre avec Nixon. Mais malheureusement, ça ne s'est pas...
concrétisé.
Ça s'est pas confirmé, non?
Oui.
Et il est mort sur un trône.
Ah bon?
Oui. Le 16 août 77, le duc du rock, 42 ans, vient de rendre l'âme et la planète entière a le blues. C'est Ginger Alden, sa petite amie du moment, qui a découvert Elvis gisant sur le sol de sa salle de bain. Il y avait des problèmes de santé. Hein. À quoi est-ce qu'il a succombé? À une overdose, lui qui se bourrait aux amphétamines et aux somnifères.
Mm-hmm.
À une arythmie cardiaque, cette malformation du cœur héritée de son père. À une constipation chronique causée par une paralysie des intestins, elle aussi génétique. 3 questions. Sans doute un peu de tout ça ensemble. Ce jour-là, alors que le King tentait de se soulager sur le trône, ses problèmes de transit aggravés par la surdose de médicaments auraient déclenché l'arrêt d'un cœur fragilisé par l'arythmie. Mais ce n'est pas la théorie de certains fans. Selon eux, évidemment, Elvis serait parti vivre caché pour échapper à une célébrité devenue écrasante.
Ben oui, il travaille chez Burger King. Ben oui, il est encore vivant, Elvis. Fait que nous, on va tout de suite aller à la pause, puis on revient immédiatement avec toi, Serge.
Mm-hmm.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et là, je vais me corriger parce que j'ai coupé un peu les coins ronds quand je parlais de Diane Dufresne, qui était visionnaire. C'est une chanson qui a été composée par Luc Plamondon. On vient de me le dire et c'est absolument vrai. Mais il n'y en a pas moins que de chanter cette chanson-là avec tout ce qu'elle a mis de son âme.
Ouais.
Et les paroles, je retiens toujours, on n'en fait plus des mâles comme toi, Elvis. Puis ça veut dire tellement de choses. Mais ça, c'est le génie de Plamondon, évidemment. On va continuer un petit peu sur Elvis.
Oui, en terminant pour Presley, l'Empire Presley, c'est un business toujours aussi rentable, même aujourd'hui.
Bon? Oui. Ouais.
John Lennon a dit, s'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles.
Ah bon?
Eh oui.
Ah, c'est des... Ouais.
Un humble hommage au King, le Britannique n'est que le premier d'une longue liste à revendiquer l'héritage colossal du pionnier du rock'n'roll. Il y a aussi Bob Dylan et Amy Winehouse qui ont tous pour modèle Elvis. Et évidemment, Elvis est une source d'inspiration pour la pub, le cinéma, la télé. Même pour les paléontologues qui ont surnommé un dinosaure Elvisaurus parce que sa crête leur rappelait sa coiffure.
Puis il y a toute une industrie d'imitateurs d'Elvis aussi, tant qu'à faire.
Avec une telle influence, pas étonnant que l'Empire Presley soit aujourd'hui encore un business hyper rentable.
Ah ouais.
Les albums, Depuis le début de sa carrière, Elvis en aurait vendu 1 milliard.
Wow!
C'est des albums, ça.
Ouais.
Il y a les livres, les produits dérivés. Près d'un demi-siècle après sa mort, la mégastar génère entre 30 et 50 millions de dollars chaque année. Et quant à sa villa de Graceland, à Memphis, elle est, avec 600 000 touristes par an, la maison la plus visitée des États-Unis, après la Maison-Blanche, évidemment.
Wow! Ben ouais. Mais ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent-là. Ça va où?
Ça doit... Ben, il y a son héritière, Lisa Marie.
Probablement.
Oui.
Mm-hmm. Allez, on va voir le nez dans les étoiles maintenant. On va parler des Perséides. J'adore ce temps de l'année.
Oui.
Puis je serai, moi, à Québec ce week-end et je pense que je vais aller faire un petit tour. Il y a un endroit aux Plaines d'Abraham, il n'y a pas trop de lumière.
Oui.
C'est sûr que c'est un endroit où il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des gens peut-être moins bienfaisants ou bien pensants ou bienveillants, mais on peut très bien voir des étoiles filantes.
Mais j'imagine qu'il va y avoir tellement de monde que ça va être sécuritaire.
Tout à fait.
Ah, c'est un article dans la presse d'hier, un article de Mathieu Perrault sur les c'est une bonne année pour les Perséides.
Ah.
Alors, les étoiles filantes du mois d'août sont de retour et cette année, les conditions sont particulièrement bonnes avec une lune très peu visible et peu de nuages prévus. Et alors, voici comment les observer. Les nuits les plus favorables sont celles du 11 au 14 août. Avec un maximum d'intensité prévu dans la nuit du 12 au 13 août, ce soir.
Oui.
Cependant, il se peut que des orages et des averses rendent l'observation difficile ce soir-là dans la région de Montréal. Je fais juste une petite parenthèse. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a une éclipse partielle de soleil aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et ne regardez pas ça directement, là. Ça prend
mais je pense qu'on ne le verra pas beaucoup ici. C'est plus en Espagne qu'il
oui,
le
mais
voit,
ça prend quand même les lunettes.
Ah, tout à fait.
Absolument.
Oui.
À cette année, il y a l'avantage supplémentaire qu'il y a moins de fumée d'incendie de forêt au Québec que d'autres années, indique Loïc Quenel, communicateur scientifique au Planétarium de Montréal. Les Perséides ont l'avantage de durer plusieurs jours. Pour d'autres pluies de météores, le maximum dure seulement 1 ou 2 heures, mais pour les Perséides, ça dure la nuit au complet.
Ah bon?
On peut les voir les soirs avant et après le maximum, explique M. Quenel. Alain Préfontaine, membre du Club d'astronomie Mont-Tremblant, rapporte qu'il a observé les Perséides vendredi dernier. « J'en ai vu 5 pendant la soirée, nous dit-il. Bon, ce n'est pas le maximum possible de 80 à l'heure, mais ça montre bien qu'on peut en voir facilement n'importe quel jour cette semaine. Si les conditions sont bonnes, évidemment toujours. Son club organise sa principale activité pour le public sur les Perséides le 14 août. Où faut-il se placer? Si on évite la lumière directe, on devrait être capable d'en voir, selon Loïc Quenel. La recette magique pour voir les Perséides est un lieu dépourvu de pollution lumineuse et l'horizon la plus dégagée possible, résume-t-il.
Okay.
Si on ne peut aller à la campagne, qui serait l'idéal, on peut choisir un parc urbain, donc...
Le Mont-Royal peut-être, ou le parc La Fontaine, ou les Plaines d'Abraham à Québec, oui.
Alors, mieux vaut s'éloigner des lampadaires, conseille le communicateur scientifique. Lorsque les conditions sont parfaites, on peut apercevoir entre 60 et 100 étoiles filantes par heure.
Ah oui, je me rappelle d'avoir vu
c'est
ça
beaucoup.
De mon jeune temps.
Ah oui?
Oui, c'est fascinant.
Jamais.
De toute beauté.
Ah oui.
Puis à l'époque, on n'avait pas nos téléphones qui étaient capables de filmer à peu près tout.
Oui, oui.
J'avais un vieil appareil photo, j'ai essayé de prendre des photos, mais ça n'a rien donné. Là, on ne les voyait pas sur mon argentique. Mais c'était absolument fabuleux. Je trouve ça, c'est un émerveillement parce que tu dis, la nature te fait un spectacle comme ça. Là, c'est fabuleux, oui.
Alors, si on reste sur son balcon, près des lampadaires, peut-être qu'on va en voir 4 ou 5 par heure, dit M. Quenel. Si on reste 5 minutes sur le balcon, ça se peut qu'on n'en voit aucune.
Oui, le risque. Ouais.
Alors, d'où viennent les Perséides?
J'aimerais ça le savoir, oui.
Voilà. Le terme étoile filante ne représente pas la réalité. Les Perséides ne sont pas des étoiles qui bougent, dit M. Quenel. Ce sont des débris rocheux laissés par une comète dans un endroit du système solaire que la Terre traverse une fois par année au mois d'août. C'est un peu comme les flocons de neige qui foncent sur nous quand on roule en auto dans une tempête. Ils ne foncent pas sur nous, c'est nous qui allons vers les flocons.
OK.
Oui. La comète qui laisse ses débris rocheux, appelée Swift-Tuttle, le nom de la comète, met 133 ans pour faire le tour du Soleil. Quand cette comète s'approche du Soleil, la chaleur sublime la glace de sa queue et de sa surface, et ce qui laisse derrière elle des débris rocheux emprisonnés dans la glace. Alors, c'était le mystère.
Le mystère.
Ouais. Les débris rocheux restent là, et la Terre traverse cette région, résume M. Quenel. Elles peuvent apparaître n'importe où dans le ciel, indique-t-il. Y aura-t-il des événements d'astronomie amateur? Ben, plusieurs. La Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, SAPM, organise une soirée mercredi. Et c'est donc ce soir. Et on a aussi un événement sur Facebook, dit M. Kennel. Certains des clubs d'astronomie amateurs font des événements seulement sur les Perséides. D'autres aussi pour l'éclipse partielle de mercredi à 13h45, comme je le disais tout à l'heure, dit Jasmin Robert de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, FAAQ. Est-ce que les Perséides sont plus abondantes certaines années? Le retour de la comète Swift-Tuttle près du Soleil au début des années 1990 a offert quelques années de Perséides particulièrement abondantes, avec plusieurs centaines d'observations par heure, rapporté la semaine dernière le site Spacecom, une source fiable selon M. Kennel. D'après les calculs de l'astronome finlandais Esko Liitinen, L-Y-Y-T-I-N-E-N, mort en 2020, la Terre pourrait traverser un filament extra-dense de Perséides en 2028, donc dans deux ans.
Oui.
Les prévisions pour 2028 varient beaucoup, de 200 à 300 à 1000 météores par heure. Ce serait beaucoup, hein?
Alors, on va sûrement prendre congé ces journées-là, oui. Puis se trouver un endroit pour les regarder.
Ouais. Ça, c'est ce que nous indique Alain Vézina, directeur de la SAPM. Et Alain Préfontaine, du Club d'astronomie Mont-Tremblant, a commencé à s'intéresser à l'astronomie au début des années 1990, quand les Perséides étaient plus abondantes. Alors, chaque événement majeur en astronomie, on a plus de nouvelles personnes dans les clubs, dit-il, et ces dernières années, il y a beaucoup plus d'intérêt à cause de l'éclipse totale de 2024, qui a eu deux ans.
Oui. On était tous là avec notre petite lunette,
oui,
tu te rappelles?
Oui, ben oui.
Écoute, je sais pas si on peut l'origine du nom Perséide.
Ben oui, je l'ai pas.
Tu l'as pas? Alors, non. Ça vient du grec ancien, Perséidaï, qui désigne les descendants de Persée. En astronomie, cette pluie d'étoiles filantes tire son nom du fait que les météores semblent jaillir d'un point précis dans le ciel, appelé le radiant, situé dans la constellation de Persée.
Ah, ouais.
Et c'est Persée avec un S et non pas avec un C.
Oui.
Puis avec un deuxième E, juste pour être certain qu'on ne se trompe pas, parce que ça vient pas de Persée ou de la Gaspésie. Des brèves, on a du temps.
Alors, je continue toujours avec les Perséides.
Ah, ok, excuse-moi.
Oui, il y a des lieux, on peut voir. Les Perséides sont en cours depuis la mi-juillet et ce jusqu'au 24 août. Donc, c'est pas seulement ce soir, là, jusqu'au 24 août. Mais dans la nuit du 12 au 13, là, c'est là vraiment qu'il faut se mettre sur nos télescopes, nos longues vues, tout ça. Puis, alors, où les voir? Parc national de la Jacques-Cartier. C'est à Stoneham et Tewksbury, au Québec.
Oui.
Le Parc national de la Jacques-Cartier organise tout l'été des soirées d'astronomie dans son amphithéâtre. Et loin de la pollution lumineuse, vous aurez la chance d'admirer les millions d'étoiles qui apparaissent dans le ciel obscur. Vous avez ensuite le Parc national du Mont-Mégantic dans les cantons de l'Est.
Ah oui, c'est magnifique ce parc-là.
Oui, c'est
vrai qu'il n'y a pas de pollution luminaire là-bas.
Oui. Alors, on ne présente plus ce parc national, là, tout le monde a entendu parler, avec son mont grandiose et réputé pour l'observatoire qui trône à son sommet et sa réserve internationale. Ensuite, il y a au Diable Vert.
Ah, c'est où ça?
Ça, c'est Glen Sutton dans les cantons de l'Est.
Ah bon?
Regardez, je vais vous montrer la photo. Ça, c'est l'endroit là, avec les sièges.
On dirait un auditorium en plein air.
En plein air, oui. Célèbre pour ses multiples hébergements rustiques et singuliers, refuges dans les arbres, pods, etc., la station de montagne au Diable Vert offre une foule d'activités, dont une unique au Canada, le vélo volant. Récemment certifiée comme réserve de ciel étoilé, elle dispose également d'un planétarium extérieur, Observer Étoiles. C'est un amphithéâtre 4 saisons de 180 places, donc 4 saisons, avec des gradins chauffés. Ce soir, vous êtes au chaud, même à l'hiver. Et c'est aménagé à flanc de montagne, avec même de la réalité augmentée. Il y a un guide par la narration d'astronomes talentueux et chaque adaptation nocturne est adaptée à la réalité changeante de la beauté de l'espace.
Ah.
Domaine Saint-Bernard, au Mont-Tremblant, dans les Laurentides.
OK.
Ouais. Situé à moins de 10 km du village de Mont-Tremblant, le domaine Saint-Bernard accueille à la fois les ornithologues, les randonneurs et les astronomes en quête d'un site retiré des grands centres urbains. Le domaine à ciel ouvert à Sainte-Agnès, dans Charlevoix. Ouvert en 2003, domaine à ciel ouvert, DACO, est un espace d'hébergement insolite situé dans le secteur de Sainte-Agnès, à 10 minutes du centre-ville de la Malbaie. Et il est ouvert à l'année 7 jours sur 7. Donc, on peut y aller.
Ah, ben, écoute, je suis dans le coin, moi, là. Peut-être que je vais prendre le taux de massage. Ouais. Je vais aller me trouver un petit endroit pour voir
la
ça.
La pourvoirie de Saint-Zénon, à Saint-Zénon, dans la Naudière, elle est située loin de la pollution lumineuse. Alors, la pourvoirie de Saint-Zénon n'est pas seulement un lieu de pêche, elle dispose aussi d'un observatoire. Donc, tout indiqué. Parc Nature Éco Odyssée à Wakefield, en Outaouais. Ce parc éco-touristique situé dans un grand marécage est connu pour proposer différentes aventures au milieu d'un labyrinthe d'eau qui compte un total de 64 intersections réparties sur 6,4 km. Une expérience attestée en planche à pagaie, en kayak, en canot ou en pédalo. Et notamment pendant les Perséides pendant 2 heures. En dernier, le Mont Cosmos à Saint-Elzéar, Chaudière-Appalaches. Situé au cœur des Appalaches, à moins d'une heure de Québec, le Mont Cosmos est un lieu idéal pour admirer le ciel étoilé, loin de la pollution lumineuse. Son observatoire, ouvert depuis plus de 40 ans, accueille autant les astronomes amateurs que les curieux. Et le 8 août, là, c'est passé, il y a un événement gratuit qui a souligné les Perséides avec des observations du ciel et du soleil en journée. Alors voilà.
Oui, et tu sais, on parle de pollution lumineuse. Je ne sais pas si tu as remarqué, de plus en plus, les lampadaires ont des espèces de rebords qu'on met pour ne pas envoyer de la lumière dans le ciel.
Ah!
Parce que là, il faudrait vraiment que je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais il me semble que ça nuit aussi à certaines espèces d'oiseaux. Parce que lorsqu'ils volent la nuit.
Ah ouais.
Puis et aussi, ben ça nuit aussi au cycle de sommeil de certains animaux. Alors maintenant, puis on voit de plus en plus que l'éclairage est plus ciblé. Moi, je vois ça dans les rues aussi. C'est plate parce qu'on a besoin de lumière pour être en sécurité aussi en même temps. Hein, tout ça est compliqué. Ben on va aller au bref, mais pas tout de suite. On va se permettre une petite chanson qui va parler des étoiles filantes. Ah, puis une dernière chose, oui.
C'est que dans le TV Hebdo, il y avait aussi « À quand remonte la plus vieille éclipse solaire observée? »
Oui.
Des astronomes indiens et japonais ont récemment découvert que le Rig Veda, un texte sacré hindou, décrivait une éclipse qui s'est produite il y a plus de 6000 ans.
Wow!
Avant cela, la plus vieille éclipse rapportée, décrite dans un texte chinois, remontait à 3200 ans.
Alors, celle de Tintin, là, lorsqu'il se retrouve dans le temple du soleil et puis qui invoque le soleil parce qu'il y a une éclipse. Ouais, quelle belle coïncidence. T'as rajouté avec le gars des vues, ça. On s'en va maintenant en musique.
Augmenter, ou à coup, mais à responsabilité. besoin de manger. L'argent a fait caprice, que ça peut te aller. Mais malgré si, oh malgré ça, les gains l'amour gagnent l'espoir. Mais l'infinale, il s'accabrette. Après dix flanes, ça ne devine faire sous terre.
Étoiles cap filées par Rebecca Jean, version créole des étoiles filantes.
Bon, je vais sortir un dicton qui est vieux comme la terre, mais qui est tellement vrai. La vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants n'ont pas de filtre, ils n'ont aucune mauvaise intention, mais ils en disent des choses. Et parfois, Moi, je vais me garder une petite gêne parce que, disons que j'étais pas reposant quand j'étais petit non plus. Je rapportais tout ce qu'on me disait.
C'est drôle, ça me surprend pas.
Non, je suis pas devenu journaliste pour rien. Mais tu sais, c'est ça, les enfants, il n'y a pas de filtre. Et ils t'aiment, c'est ci, c'est ça. Il n'y a pas de... Tu sais, ils ne vont pas te juger parce que tu as un gros nez. En fait, ils vont dire que tu as un gros nez, c'est tout. Alors, on fait des brèves et on va parler justement de mots d'enfants.
Oui, C'est une amie qui m'avait envoyé ça il y a un bon bout de temps. Et des mots, quoi, des petites phrases d'enfants.
Oui.
Bon. Alors, Terry, 4 ans. L'amour est ce qui vous fait sourire quand vous êtes fatigué. L'amour, c'est quand ma mère prépare du café pour mon père et qu'elle en prend une gorgée avant de le lui donner pour s'assurer que le goût est bon. C'était Danny, 8 ans.
Ah ouais.
8 ans, oui.
J'ai jamais vu ça. Personne ne peut faire mon café et encore moins le goûter pour moi.
Ouais. Ouais. Bobby de 7 ans, lui. Bobby a 7 ans et dit « L'amour, c'est ce qu'il y a dans la pièce à Noël » si vous arrêtez d'ouvrir les cadeaux et que vous écoutez simplement.
Oh, wow!
C'est sage, hein?
C'est sage, oui.
Nika, de 6 ans. Si tu veux apprendre à mieux aimer, tu devrais commencer par un ami que tu détestes.
Mais quelle grande sagesse!
Oui, oui. Et on dit ici, nous avons besoin de quelques millions de Nika supplémentaires sur cette planète.
Ouais, oui, hein? Tout à fait. Surtout maintenant.
Oui. Noël, qui a 7 ans. Noël, 7 ans. L'amour, c'est quand tu dis à un gars que tu aimes sa chemise et qu'il la porte tous les jours.
Oh, c'est cute!
Pendant mon récital de piano, ça c'est Cindy, 8 ans. Pendant mon récital de piano, j'étais sur une scène et j'avais peur. J'ai regardé tous les gens qui me regardaient et j'ai vu mon père qui me faisait signe et souriait. Il était le seul à faire cela. J'avais plus peur.
C'est tellement beau.
L'amour de Hélène, 5 ans. L'amour, c'est quand maman donne à papa le meilleur morceau de poulet. L'amour, ah oui. Marianne, 4 ans. Ça, celle-là, vous allez l'aimer, tu vas l'aimer. L'amour, c'est quand votre chiot vous laisse le visage, même après que vous l'avez laissé seul toute la journée.
Oh.
C'est vrai.
Ben oui, ben c'est vrai. Moi, mon chien, il est toujours content de me revoir.
Ben oui.
C'est vrai que c'est moi qui le nourris, par contre. C'est peut-être pour ça aussi.
Oui. Jessica, 8 ans. Tu ne devrais pas dire « je t'aime » à moins de le penser. Mais si vous le pensez, vous devez le dire souvent. Les gens oublient.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Et la dernière, ça est vraiment, là, moi, elle me... Sniff, sniff. Le gagnant de ce concours-là, là, des citations, c'était un enfant de 4 ans, dont le voisin d'à côté était un homme âgé qui venait de perdre sa femme. Et en voyant l'homme pleurer, ben, le petit garçon est allé dans la cour du vieux monsieur, a grimpé sur ses genoux et s'est assis là. Lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il avait dit au voisin, le petit garçon a répondu « Rien. » « Je l'ai juste aidé à pleurer. »
Wow. C'est vrai que c'est touchant.
Ouais.
Puis disons qu'aujourd'hui, on aurait peut-être besoin de ce petit garçon-là, ben oui, parce qu'on est triste ici, mm-hmm, avec le départ de Fulgence. Ben, on a le temps d'aller en musique, finalement, et d'écouter Charlotte Cardin. On y va. Je pense que c'est prêt. Oui, on y va.
Elle brûle avec elle, pas tout à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, pas tout à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Fini ce bordel. Hésitation à terme, c'est moi que tu aimes. T'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi. Moi, je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes. Et on s'échappe du système. Que je vide de tes veines. Jusqu'à ce que rien ne rappelle. Regarde mes lèvres qui invitent les tiennes. Pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, pas tout à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel.
Charlotte Cardin, tant pis pour elle.
Bon, ben ça sera pas tant pis pour nous, parce que Serge, il lui reste quelques petites nouvelles brèves qu'on va profiter du temps qui reste pour les entendre, les écouter.
Avez-vous déjà entendu parler du snack fishing?
Non.
Bon, moi non plus. Le terme snack fishing ou snack fish fait référence à la publication de faux produits alimentaires. Généralement, créé à l'aide de Photoshop sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Par exemple, la publication sur Instagram, il y aurait apparemment ça, là, je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas, d'un ketchup clair de Heinz qui a récolté plus d'un million de « j'aime ». Comme quoi, on peut toujours se leurrer.
Ben, je ne fais pas partie des millions, je ne l'ai pas vu.
Mais moi non plus.
Ouais.
Mais il n'existe pas dans les magasins, mais là, c'est une fausse publicité.
Alors. Bon.
Qu'est-ce qu'un tigre noir? Savez-vous que ça existe?
Je ne savais pas.
Non. Observé en Inde, mais rare, le tigre noir présente plus de poils noirs que les tigres habituels, sans pour autant être tout entièrement noir, évidemment. Bon, je vous rassure. Ses rayures noires sont plus larges, diminuant la place laissée aux rayures oranges, et une variation génétique conduirait à la production de rayures très larges, au point de recouvrir certaines zones du corps de noir. Et il ne représente donc pas une sous-espèce distincte des autres tigres. C'est un tigre normal. C'est un monsieur tigre normal.
C'est un tigre avec de la diversité, tiens, ouais, voilà. Il nous reste une minute.
D'où vient le Nutella?
Ouais, je sais pas.
En 1946, Pietro Ferrero, pâtissier réputé de la région d'Alba en Italie, ne trouve plus les fèves de cacao à des prix abordables. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, les exposants, tout ça, là, ça devenait compliqué. Alors, il a l'idée de créer un bloc de chocolat fortifiant baptisé Gian Dujot, dans lequel il remplace en partie les fèves de cacao par des noisettes produites abondamment par les paysans des collines du Piémont. Et durant l'été caniculaire de 1949, le Gian Dujot fond, ce qui lui donne une texture plus crémeuse. L'engouement est immédiat, si bien qu'on se décide à transformer le Gian Dujot en une pâte sucrée au chocolat et aux noisettes crémeuse et donc facilement tartinable. La super crema, la pâte à tartiner de marque Nutella est née.
Ben oui, et avec beaucoup d'huile de palme qui n'est pas toujours très bon pour l'environnement. Merci, Serge Verdet, ça s'arrête ici.
OK, ben.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis-Martin Chabot.
Temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage. J'essaie d'attraper les lueurs qu'il reste de ce que tu es. Quand la garde baisse et les cris s'enchaînent comme les éclairs que tu me lances en SOS, les cris reviennent sur terre. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Les ombres mènent le bal sur tes pensées, celles qui éclipsent le chemin traversé. Les heures s'effondrent quand tu ne peux plus battre les fois qui font que ton cœur éclate. Et si on ne peut plus s'élever, je ne serai qu'une aile qui peut t'aider à voler. Je ne sais plus t'aider. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Et les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage.
Château de sable par Cœur de pirate.
Septembre s'en vient, c'est la rentrée, puis oui, c'est la rentrée aussi pour plusieurs institutions culturelles, dont le Théâtre de la Licorne et de la Manufacture. Je pense qu'on peut dire que c'est des institutions culturelles, elles sont là depuis longtemps, puis elles jouent un rôle important dans notre culture ici à Montréal. Et pour en parler, on reçoit le directeur artistique Philippe Lambert du Théâtre de la Manufacture et de la Licorne. Bonjour Philippe.
Salut.
On est content de te recevoir à cette antenne.
Merci.
J'ai regardé la programmation et puis... c'est des titres assez... Bon, il y a des choses qui reviennent, mais des titres aussi très surprenants, étonnants. On voit qu'on essaie d'innover. C'est quoi la ligne directrice ou la ligne de force qui unit les œuvres ou qui a fait en sorte que tu as choisi ces pièces-là?
Ben, je pense que c'est les coups de cœur avant tout. C'est très instinctif parce que je pense pas qu'on peut façonner une saison en se disant « Hey, je vais choisir des œuvres qui parlent de tel sujet ». C'est les œuvres qu'on reçoit, comment on est sollicité, les auteurs qui écrivent. Puis souvent, c'est parce qu'on travaille en amont, comme par exemple la nouvelle pièce de Nathalie Doumard, Georges. Elle est en résidence à la Licorne depuis 2 ans. Donc, je vois venir ce texte-là. Donc, je sais qu'à un moment donné, il va aboutir. Puis là, en effet, c'est là. C'est cet automne avec Manuel Tadros, entre autres. Puis Nathalie Doumard, elle a fait un grand succès avec Frère, justement, ce printemps chez
Ducep. Et l'autre, c'était Maman aussi.
Maman avant. Ouais. Mais Nathalie, elle a commencé chez nous avec Coco, Sissi, dans La Petite Licorne. Là, elle est allée faire des œuvres avec plus grand déploiement, puis elle revient avec quelque chose de plus intime autour de la vie de son père, de elle et de son frère. Donc, une pièce à 3 personnages, très tendre, très drôle aussi. Nathalie, c'est toujours des dialogues drôles, mordants, mais avec une grande humanité.
Puis avec une grande tendresse.
Exactement,
si je pense à Frère, il y avait une très belle tendresse dans ce texte-là. Puis elle nous fait découvrir aussi une culture qu'on juge sans la connaître trop.
Exact,
et elle nous apprend à la connaître, cette culture-là.
Puis les clashs de culture aussi, de famille à l'intérieur d'une famille, les premiers arrivants, après ça, les enfants qui sont nés ici, mais qui sont influencés par les d'avoir grandi ici. Fait que c'est vraiment fabuleux.
Je vais reposer ma question parce que c'est vrai qu'elle n'était pas bien posée. Alors, Philippe, qu'est-ce qui fait qu'une pièce est un coup de cœur pour toi? Qu'est-ce qui t'allume présentement quand tu vois des textes de théâtre?
Moi, je reviens souvent au mot « surprise » parce que quand je lis, j'aime me faire surprendre. Fait que si je me fais surprendre par le déploiement de la pièce, de l'écriture, des personnages, ben je me dis « c'est ça l'essentiel ». Puis je me mets à la place, je suis le premier public, fait que moi, je me dis « ben le public va être surpris aussi ». Puis c'est ça le plus difficile comme auteur, pour comment raconter une pièce, comment raconter une histoire qui va toujours nous amener ailleurs, nous surprendre. Fait que c'est vraiment ça, la force d'impact aussi des questions qui sont soulevées, qui sont sous-jacentes, en fait, dans l'écriture, comme Catherine Léger avec Changer de vie qu'on
parce
reprend.
Parce que ça revient.
Puis là, ça a été un gros succès cet hiver.
Tellement, beaucoup de personnes l'ont manqué parce que ça a été, effectivement, ça le compte tous les soirs, ça.
Oui, 41 spectacles. Puis là, on en reprend du 1er au 17 septembre pour une douzaine de spectacles.
Alors, si vous avez manqué la pièce, précipitez-vous.
Avec
téléphone,
Steve Laplante, Marilyn Castonguay, Isabelle Brouillette, Hubert Proust, un quatuor d'acteurs incroyable, puis un plaisir. Catherine, c'est aussi une écriture pétillante, toujours... Le mot surprenant va tout à fait à Catherine.
Il y a l'adaptation de l'Académie Eureka. C'est une pièce qui a été écrite par l'auteur états-unien Jonathan Spector.
Ouais.
Alors, ce choix, c'est pourquoi?
Ça, c'est drôle. C'est une pièce, ça fait peut-être 5 ans qu'on attend d'avoir les droits. C'est un gros succès à Londres et à New York aussi. Lui, il a écrit ça avant la pandémie et ça parle d'une éclosion d'oreillons dans une école primaire. Un peu, pas de nouvel âge, là, mais tu sais, une école un peu où les parents, comme Montessori, sur la côte ouest.
Pour les enfants.
Sur la côte ouest américaine. Fait qu'on suit vraiment le groupe de parents qui gère un peu, le comité de parents qui gère l'école, puis qui sont pris avec cette éclosion-là, puis dans les valeurs de chacun. Et c'est délirant, c'est drôle. On voit vraiment... puis ça pose vraiment cette question du social versus l'individuel.
Oui.
À un moment donné, il y a des choix qu'on doit faire si on veut vivre dans une collectivité, tu sais, puis il est très habile, l'auteur. C'est ben, vraiment bien fait.
Moi, je trouve que ces gens qui proposent des textes comme ça, je les trouve, ben, deux fois que j'utilise le même mot aujourd'hui, visionnaires. Comment on peut écrire un texte avant la pandémie, puis que ça nous parle tant que ça maintenant?
C'est ça, puis mais là, de toute façon, avec l'éclosion de Rougeol aussi qu'on voit, là, il revient à ça, puis ça... Ça, tu as tout à fait raison. C'est être visionnaire, c'est de poser des questions
L'art, c'est pour faire réfléchir aussi. Ça divertit, mais ça fait réfléchir. La petite licorne, faut pas oublier, vous avez des projets audacieux là-bas.
Ben, la petite licorne, 100 places, contrairement à la grande licorne, 185 places. Tu sais, comme être ou ne pas être, un douchebag aussi, qui pose une question vraiment intéressante. Un duo d'acteurs, un duo qui sont pris dans un ascenseur, deux anciens amants qui se retrouvent et qui se questionnent. Puis... Marie-Lé Picnel, qui a écrit la pièce et qui joue, je trouve que c'est formidable ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle appelle ça un douchebag. Fait que tout de suite, on a l'impression que c'est le gars le douchebag, puis finalement, on voit ces deux personnages-là se parler, comment elle le traite, puis finalement, on fait, c'est peut-être elle qui a le plus de préjugés sur ce gars-là, qui peut avoir l'air un gars qui s'entraîne, puis qui parle un petit peu comme ça, puis que tu fais, c'est un douchebag, mais c'est quoi dans le fond? Ça nous re-questionne.
C'est ça que ça re-questionne. J'allais dire, la masculinité toxique n'est pas seulement quelque chose que les hommes ont.
Parce qu'il
y a des femmes qui sont toxiques, qui incarnent ça.
Tout à fait.
Écoute, je t'en file, puis il y a tellement de choses à dire. Il y a des œuvres qui abordent la mémoire de l'histoire. Hein, Femmes de la traite, des fourrures, Tant de cochons.
Documentaire, Justin Laramé. Ceux qui ont vu Rondelet, il suit l'industrie du porc, il plonge là-dedans. Puis Suzanne va sortir aussi, qui se passe dans un club de lecture, dans une prison pour femmes. Puis ça, c'est fabuleux. Puis je voyais une nouvelle hier, là, justement, où dans une prison à Laval, ils ont coupé les fonds pour un groupe de lecture. C'est exactement ça. Puis ça parle de ça. Donc, c'est vraiment fabuleux, ça. C'est une pièce...
Puis les formules 5 à 7, vous avez inventé la formule?
Toujours. Ça va presque faire 10 ans. Dans notre salle de répétition, 60 places avec un verre, un petit goûter, puis une pièce de 50 minutes. Qui est toujours très drôle, c'est cette idée-là, là, du 5 à 7, on est un petit peu plus relax.
C'est plus intime. Ouais. J'aimerais quand même terminer avec, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais il faut en parler. Le milieu culturel souffre de sous-financement et de mal-financement. Comment ça affecte le théâtre de la Licorne jusqu'à maintenant?
Il faut dire que le gouvernement, il a quand même investi 40 millions au printemps dernier. Donc, il y a eu comme une bouffée plus positive. Oui. Les salles sont pleines. En tout cas, moi, chez nous, ça va bien. Donc, tu sais, les gens, moi, je trouve que les gens ont envie de se retrouver dans une salle, de fermer son téléphone puis de juste se faire raconter une histoire. Je pense que moi, ce que je sens, c'est que les gens ont besoin de plus en plus de ça, de retrouver un moment où ils sont obligés de se déconnecter, de s'arrêter puis de se faire... raconter une histoire, puis d'être ensemble.
Mais d'autres théâtres ont dû réduire leur programmation. Je me rappelle, l'an dernier, il y avait Space Go qui avait dû annuler des spectacles.
De temps en temps, il y a un spectacle qui s'annule dans un théâtre ou l'autre. Ça arrive. C'est un choix aussi. Il y a beaucoup de demandes. Et les conseils des arts ont un maximum d'argent.
Puis Philippe Lambert, il ne se plaint pas, lui. C'est vrai. À chaque fois que je t'ai posé la question, mais c'est correct. Je pose la question, puis j'aime bien entendre la réponse que tu offres. Oui,
puis c'est bien correct. Puis le ministre de la Culture, il est allé au bat pour nous. Faut lui donner ça. C'est dommage qu'il s'en aille, mais il a été très présent. Puis,
Parce qu'il a fait beaucoup.
Il est allé chercher une enveloppe substantielle pour dire, OK, on vous donne de l'air, tu sais.
Alors, Philippe Lambert, ça va être une belle saison. Et puis, faut faire quoi? Faut s'abonner?
Et certainement. Vous pouvez y aller sur notre site.
Sur le site du théâtre de la Licorne et de la Manufacture. Vraiment,
Papineau
merci.
Papineau et Mont-Royal.
Oui, très facile à trouver. Puis merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Chaque année, je t'invite parce que je trouve que ce théâtre, faut en parler. Faut le faire découvrir. Puis merci beaucoup d'avoir été là avec nous.
On vous attend.
Ils ont réussi à me convaincre d'aller dans un bar. J'avais pas le goût d'être là, il était même pas minuit et quart. La tête ailleurs, mon corps est tanné de mes déboires. J'vis ma vie sur la scène, pourtant j'me vois pas comme une star. Y'a Zach à côté de moi qui me dit de regarder à ma droite. Et comme la fille est tellement belle, faut que t'ailles la voir avant qu'elle parte. Et son parfum Chanel est partout dans la pièce. Elle s'appelle Michael. Elle
m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu pars bientôt, mais je t'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu pars bientôt, mais je t'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. J'm'ennuie du vibe qu'on est caché d'entendre le son de ta voix. Depuis que t'es parti, j'suis perdu, pis c'est pas évident. Mais j'perds ma tête lentement, du artisan dans le vent. J'passe du temps avec les boys, mais j'suis pas le même sans toi. J'écris mes lyrics dans un cahier que sans passer le temps. Pis j'prends la guide pour mettre des pannes, et quand j'te veux dans mes bras. Mais son parfum Chanel était partout dans la pièce. Oh, Michael. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu pars bientôt, mais je t'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu pars bientôt, mais je t'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu pars bientôt, mais je t'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la
dernière fois par l'artiste Stads.
C'est le temps maintenant de faire un tour de l'actualité franco-canadienne en ce 12 août 2026 avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Denis Martin.
Alors, une directive sur la langue de travail à la Défense nationale inquiète, ça vient de Franco Presse.
Oui, c'était la grosse nouvelle en francophonie canadienne la semaine dernière. C'était la découverte d'une directive au sein du ministère de la Défense qui affecte aussi les forces armées canadiennes, cela dit, où ils ont adopté une définition de la loi sur les langues officielles pour la langue sur les lieux de travail. Donc, l'armée avait, et le ministère de la Défense avait leur propre définition et ils ont adopté la liste des régions bilingues qui est inscrite dans la loi sur les langues officielles, la nouvelle révisée en 2023. Ce qu'on peut comprendre des conséquences en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs bureaux qui étaient désignés bilingues par l'ancienne directive qui sont devenus unilingues. Bon, il y en a plus qui sont devenus unilingues anglophones, mais il y en a qui sont devenus aussi unilingues francophones, probablement ceux qui sont surtout au Québec. Mais il y a encore ce qui dérange dans tout ça aussi, c'est le message qui annonçait le changement dans l'infolettre qui a été publiée le 27 juillet, où on disait carrément qu'il y avait des bureaux où beaucoup de plaintes au commissariat aux langues officielles étaient faites, où on avait de la difficulté à combler des postes bilingues, puis que ce changement-là allait, en quelque sorte, de la façon que c'était écrit, régler la situation. C'est un peu ça qui a choqué plusieurs personnes. Alors moi, j'ai parlé à un vétéran francophone qui, lui, s'inquiète de l'image que ça envoie aux jeunes ou qu'on voudrait recruter en leur disant « le français n'a pas vraiment sa place au sein des forces armées ». Puis le député Joël Godin, qui est au comité parlementaire sur les langues officielles, lui, souligne que peut-être que oui, la nouvelle directive respecte la loi sur les langues officielles, puisqu'elle utilise une de ces listes, mais pas nécessairement l'esprit de la loi, qui est d'encourager à protéger et promouvoir le français au Canada, alors que là, la directive fait qu'on a enlevé l'accès au français à certains endroits. J'ai aussi pu parler à un représentant, un porte-parole du ministère de la Défense, qui est directeur des langues officielles au sein du ministère, qui lui dit qu'il s'agit principalement d'un réalignement administratif, puis que dans le fond, il n'y a pas tant de changements que ça, que les services aux militaires et à leurs familles et au public ne sont pas touchés du tout, que c'est seulement la langue de travail, la langue de communication au sein de certaines unités qui est modifiée, mais que ça, dans le fond, interdit pas à personne de parler la langue qu'ils veulent non plus. Mais en tout cas, j'ai demandé d'autres données pour avoir plus d'informations sur le nombre de bureaux qui ont changé de langue, puis je vous en reparlerai peut-être.
Donc, ça va être à suivre tout ça. Les jeunes Terre-Neuviens sont moins nombreux à Québec.
Oui, on parle plus précisément des jeunes Terre-Neuviens et Labradoriens qui vont au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec pour participer à un programme d'immersion française, quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Puis on nous explique qu'ils peuvent s'y rendre par deux programmes. Il y a d'abord le programme Explore, qui est financé par Patrimoine canadien puis qui dure 5 semaines. Puis le programme Aventure, qui est financé par Terre-Neuve-et-Labrador et qui dure 4 semaines. Dans les deux cas, il y a seulement les déplacements qui ne sont pas payés. Le reste, hébergement et nourriture, c'est inclus. Et depuis 2 ans, on observe une diminution de plus de 50 % de la participation au programme Aventure, selon les responsables du collège. Pas nécessairement un manque d'intérêt pour l'immersion en français qui explique cette diminution-là. C'est peut-être plutôt le fait que les cohortes francophones et les immersions en province sont plus petites, qu'il y a moins de jeunes dedans. Il y a aussi le coût du transport, puisqu'il n'est pas payé par les programmes, qui a beaucoup augmenté. Peut-être que ça peut décourager des participants potentiels. Et ça se peut que les familles aussi aient préféré ou préfèrent faire des activités locales en famille ou préfèrent ne pas aller passer 4 semaines dans une autre province. Le gaboteur qui a produit la nouvelle a parlé à deux des 34 jeunes terminoviers qui ont participé au programme cette année au Cégep. Puis eux ont beaucoup aimé l'expérience et le recommandent à tout le monde.
Ouais, moi aussi, j'ai fait ça dans mon jeune temps, des échanges comme ça ailleurs au pays. Puis on aime toujours ça. C'est toujours le fun, puis c'est toujours des belles découvertes. Évidemment, c'est triste que les gens soient plus en mesure de faire avec les réalités financières et les coûts, hein, c'est ça. Entre célébration et lucidité financière, pour les 40 ans de la Fondation franco-ontarienne.
Oui, qui est un organisme à but non lucratif qui offrait des bourses et des subventions pour l'avancement de la communauté francophone franco-ontarienne. Je vous disais pourquoi je dis offrait, je l'ai dit au passé. Mais elle fait quand même ses 40 ans cette année. Puis elle vient de lancer sa campagne annuelle qui est intitulée 40 ans d'impact pour 40 $. Donc on encourage les gens à donner 40 $ à la fondation. Ce qui peut surprendre, c'est l'objectif de la campagne qui est de seulement 8 000 $. Dans le passé, on a vu des objectifs d'environ d'autour de 100 000 $ pour des campagnes similaires. Ce qui explique le directeur de la fondation, le directeur général Marc Laving, qui est très transparent dans l'entrevue, d'après ce qu'on nous dit, c'est que la fondation traverse des moments difficiles. Ils ont une dette importante. Il est aussi conscient de la situation économique des gens. Donc, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, qu'on a seulement un objectif de 8 000 $. Il dit aussi que la fondation va avoir besoin de l'aide de la population franco-ontarienne pour traverser sa crise financière. Puis aussi pour... ils ont réaligné leurs objectifs. Là, comme je disais, il y a moins de subventions qui vont être données. On va se concentrer sur les bourses d'études pour les jeunes francophones qui veulent étudier en France.
Ouais, encore une fois, hein, tout ce domaine communautaire et les fondations, c'est difficile. Je pense que tout le monde souffre de ça, là, les revenus qui diminuent. Les petits musées ont de gros défis financiers dans la liberté.
Oui, on parle encore d'argent. Dans ce cas-ci, c'est un gros problème d'arbres que la liberté utilise pour illustrer les difficultés que peuvent apporter les dépenses imprévues aux petits musées un peu partout au Canada. Puis là, dans ce cas-ci, c'est qu'on parle de la maison Gabrielle Roy, qui est un musée consacré à l'autrice dans sa ville natale de Saint-Boniface.
Mm-hmm.
En 1905, il y a trois orbes qui ont été plantés devant la maison. En plus de 100 ans, ils sont évidemment devenus très grands. Là, j'ai vu des photos, puis ils dépassent la maison de 2 étages. Mais le problème, c'est que leur état de santé n'est pas le meilleur, puis la météo imprévisible fait que ce sont carrément devenus des dangers pour la maison. C'est une tempête de vent trop forte, puis les arbres peuvent tomber sur la maison et démolir ce musée, ce lieu historique. Le conseil d'administration a dû donc prendre la décision de les abattre. Mais où on trouve l'argent pour faire ça quand on a déjà un déficit de quelques milliers de dollars puis que notre financement est limité? C'est la question qui se pose. Comme on dit, pour certains travaux, on peut faire appel à des bénévoles, mais pour quelque chose d'aussi important, il ne faut pas que l'arbre, en étant abattu, tombe sur la maison non plus. Donc, ça prend des professionnels. Ce qu'on nous explique, c'est que des décisions de ce genre-là signifient qu'ils auront moins d'argent pour de la programmation pour l'année ou les années à venir. Puis, une défense, c'est qu'on dit qu'on attend beaucoup des petits musées sans vraiment leur donner les ressources ou les moyens de remplir pleinement leur mission.
Bon, on va arrêter de parler de problèmes financiers. une nouvelle quand même un peu plus joyeuse pour la fin des agriculteurs francophones de l'Ontario à la poursuite d'un record Guinness dans Agricom.
Ça va avoir lieu à Saint-Albert, dans l'Est ontarien, le 22 août. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un appareil qui permet d'attacher plusieurs charrues pour le labour ensemble. Puis leur objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre de lames de labour dans le sol en même temps, que ça fonctionne et créer des sillons. Ce qu'ils ont construit fait environ 300 pieds de longueur, là, donc une centaine de mètres, puis ça va être tiré par trois tracteurs. Et c'est plus compliqué qu'on pense, ce qu'on nous explique dans l'article, parce qu'il ne suffit pas d'attacher les charrues là-dessus. Il a fallu faire quelques modifications mécaniques pour qu'elles puissent rester stables et labourer dans la même direction et que ça fonctionne et que ça ne bloque pas. Il y a aussi le risque de la météo qui peut jouer un rôle, parce que si la terre est mouillée, ben, ça va être plus difficile à labourer, ça peut créer plus de friction. Donc, on espère que les tracteurs seront assez forts. Et on ne peut pas repousser la date, par contre, parce qu'il y aura des représentants de l'organisme des records Guinness sur place le 22 août. Et on va faire attendre cette date-là pour savoir s'ils ont réussi.
Toujours fascinant. Encore une fois, ce que les gens pourraient faire pour avoir un record Guinness, ben, c'est absolument fascinant. Ben, écoute, j'ai hâte de voir les images de ça, Julien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations-là avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
À la prochaine. Et on a le temps de faire quelques petites nouvelles. Communiqué du 11 août, une étude menée par des chercheurs de l'Université McGill et du Centre de recherche Douglas, publiée dans The Lancet Psychiatry, révèle que le programme pan-canadien de santé mentale pour les jeunes, Access ou Esprit ouvert, génère un retour sur investissement significatif pour le système de santé publique en privilégiant des soins communautaires plutôt que le cadre hospitalier pour les jeunes ayant des besoins plus complexes. Ce modèle a permis d'économiser en moyenne 4 355 $ par personne par année, ce qui équivaut à près de 10 $ économisés pour chaque dollar investi. Hein? C'est intéressant. Et puis, il y a une étude aussi qui est dirigée par le Dr. Jay Shah, qui a comparé près de 1 500 jeunes suivis à Edmonton à plus de 9 000 personnes ayant reçu des soins traditionnels. Mais malgré un profil initial présentant des problèmes de santé mentale plus graves et un recours plus fréquent aux urgences ou aux hospitalisations, les participants au programme ont diminué leur utilisation des services hospitaliers et résidentiels coûteux après leur prise en charge. Ces résultats démontrent l'efficacité de cibler les jeunes aux besoins complexes pour alléger la pression sur le réseau de santé. Presse Plus ce matin, l'influenceur québécois Julien Duguay, connu sous le pseudonyme Médusa et le propriétaire de la bijouterie Médusa, suscite une vive controverse après la diffusion d'une séquence vidéo enregistrée lors d'un événement sur un yacht à Miami. Diffusé en direct sur la plateforme Twitch, le créateur de contenu y tient des propos misogynes, affirmant notamment que les serveuses présentes sur le bateau devaient fournir des services sexuels aux clients en raison du coût de location de l'embarcation. Ces déclarations ont suscité des dénonciations publiques et ont poussé certains invités, dont le créateur de contenu Louis-Charles Lavoie, Lewis Defou, à quitter prématurément l'événement pour se dissocier de ses agissements. Des experts en criminologie et en médias ont souligné la banalisation préoccupante de la misogynie auprès des jeunes abonnés de tels influenceurs, proposant notamment des mesures d'encadrement pour les créateurs de contenu. Un épisode d'Au quotidien varié, plusieurs sujets, plusieurs choses qu'on a sorties aujourd'hui, puis c'était bien, bien enrichissant. Je vous rappelle donc à la météo, ensoleillé ce matin, alternant soleil et de nuages, avec 40 % de probabilité d'averse en après-midi et risque d'un orage. C'est pas mal partout dans l'est du pays, sauf en Nouvelle-Écosse, où il y a un dégagement, puis les humidex sont élevés partout. Au Manitoba également, et puis en Saskatchewan, c'est pas d'humidité, puis des averses et des orages. En Alberta, 18 degrés, alternance soleil et nuages. En Colombie-Britannique, 22 degrés, possibilité d'averses et d'orages sur la côte ouest. Donc, on va se sortir nos parapluies, parce qu'il y a tellement fait chaud et sec dernièrement, ça va, et humide, ça va peut-être faire du bien un petit peu de pluie. Ça va nous rafraîchir les idées. Merci Maurice Bolduc, merci Canal M, je m'appelle Denis Martin Chabot, je suis là demain, 9h30.